Livre des Nombres, chapitres 1 et 2. Filiation et bannière. Le Livre des Nombres dans le Pentateuque. Nous entreprenons maintenant l'étude du quatrième livre de Moïse. Le caractère essentiel de ce livre est aussi fortement marqué que celui des trois précédents qui nous ont déjà occupés. Dans le livre de la Genèse, après le récit de la création, du déluge, et de la dispersion de Babel, nous avons l'élection d'Abraham et de sa descendance. Dans l'Exode, nous trouvons la rédemption. Le Lévitique nous parle de la communion par le moyen du culte sacerdotal. Dans les Nombres, nous voyons la marche et la lutte au milieu du désert. Tels sont les sujets principaux de ces livres. À côté d'eux, bien sûr, plusieurs autres points du plus profond intérêt sont présentés. Et l'Éternel parla à Moïse au désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, disant « Relevez la somme de toute l'assemblée des fils d'Israël, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, tous les mâles, par tête, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui sont propres au service militaire, vous les compterez selon leurs armées, toi et Aaron. » Chapitre 1, versets 1 à 3. Dès le début du livre, nous nous trouvons dans le désert, où ne doivent être comptés que ceux qui sont propres au service militaire. Dans le livre de la Genèse, la semence d'Israël est présentée comme étant encore dans les reins d'Abraham. Dans le livre de l'Exode, les Israélites sont auprès des fours à briques de l'Égypte. Dans le Lévitique, ils sont assemblés autour de la tente d'assignation. Dans les Nombres, ils sont vus au désert. Ou bien encore, sous un autre point de vue, dans la Genèse, nous entendons l'appel de Dieu en élection. Dans l'Exode, nous contemplons le sang de l'agneau versé pour la rédemption. Dans le Lévitique, nous sommes occupés du culte et du service du sanctuaire, et à peine ouvrons-nous le livre des Nombres que nous y voyons apparaître des hommes de guerre, des armées, des étendards, des camps et des trompettes sonnant l'alarme. Tout ceci est très caractéristique. Chaque livre de la Bible a une valeur, une importance et un intérêt particulier pour le chrétien. N'ayons jamais la pensée d'établir une comparaison entre eux sous le rapport de leur valeur intrinsèque, de leur intérêt ou de leur importance. Tout est divin et par conséquent parfait. Le lecteur chrétien le croit pleinement de tout son cœur. Il s'incline devant l'inspiration plénière des Saintes Écritures et il ne se laisse nullement ébranler par les attaques téméraires et impies des infidèles de l'Antiquité, du Moyen-Âge et des temps modernes. Les incrédules et les rationalistes peuvent mettre en avant leur raisonnement profane, montrant ainsi leur inimitié contre la Bible et contre son auteur, mais le chrétien pieux repose dans l'assurance bienheureuse et simple que toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée 3, verset 16. Tout en rejetant entièrement l'idée d'une comparaison entre les divers livres de la Bible quant à leur autorité et à leur valeur, nous pouvons cependant avec beaucoup de profit en comparer le contenu, le but et le plan. Et plus nous méditerons sur ces choses, plus nous serons frappés de la beauté, de la sagesse et de la précision du volume entier et de chacune de ses parties. Tout est dans la plus parfaite harmonie. La parole de Dieu, aussi bien que ses œuvres, parle pour elle-même. Elle se recommande par elle-même. Elle parle au cœur, elle atteint jusqu'aux racines morales les plus profondes de notre être. Elle nous montre ce que nous sommes. Elle parle comme aucun autre livre ne pourrait le faire, et comme la femme de Sichar concluait qu'il fallait que Jésus soit le Christ, parce qu'il lui avait dit tout ce qu'elle avait fait, de même nous pouvons dire, à l'égard de la Bible, elle nous dit tout ce que nous avons fait. Elle est la parole de Dieu. Il est de la plus haute importance d'avoir le cœur et l'esprit fermement établis dans la grande vérité de l'autorité divine de l'Écriture sainte, de son inspiration plénière et de sa complète suffisance pour tous les besoins, pour toutes les âmes et pour toutes les époques. Béni soit Dieu de ce qu'il nous a donné une révélation. Il a parlé, et sa parole peut atteindre le cœur et l'entendement. Dieu peut donner la certitude que c'est lui qui parle, et nous n'avons besoin pour cela d'aucune intervention d'autorité humaine. Nous n'avons pas besoin d'une lampe pour nous rendre capables de voir que le soleil resplendit. Le soleil a assez de lumière par lui-même. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit. Tout ce qu'il nous faut, c'est de nous tenir au soleil et nous serons convaincus qu'il brille. Si nous nous retirons sous une voûte ou dans un souterrain, nous n'en sentirons pas l'influence. Il en est justement ainsi de l'Écriture. Si nous nous plaçons sous les influences glaciales et ténébreuses du raisonnement, de la superstition ou de l'incrédulité de l'homme, nous n'éprouverons pas le pouvoir lumineux et fécond de la révélation de Dieu. Appartenance au peuple de Dieu. Dans le chapitre 1 du livre des Nombres, nous avons la déclaration de la généalogie ou de la filiation. Dans le chapitre 2, nous avons la reconnaissance de la bannière. Et Moïse et Aaron prirent ces hommes-là qui avaient été désignés par leur nom, et ils réunirent toute l'assemblée le premier jour du second mois, et chacun déclara sa filiation selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, par tête. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, ainsi il les dénombra dans le désert de Sinaï. Chapitre 1, versets 17 à 19. Y a-t-il là une voie pour nous? Certainement. Ces lignes placent devant chacun de nous l'importante question: puis-je déclarer ma généalogie ou ma filiation? Il est grandement à craindre qu'il n'y ait des milliers de chrétiens professants incapables de le faire. Ils ne peuvent pas dire avec sincérité et d'une manière positive « Nous sommes maintenant enfants de Dieu ». 1 Jean 3, verset 2. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus ». Galates 3, verset 26. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 14 et 16. Voilà la généalogie du chrétien, et c'est son privilège de pouvoir la déclarer. Il est né de nouveau, né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire par la parole et par le Saint-Esprit. Voir Jean 3, verset 5, Jacques 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 23, Éphésiens 5, verset 26. Le chrétien fait remonter sa généalogie directement à un Christ ressuscité et élevé dans la gloire. C'est la généalogie chrétienne. Quand il s'agit de notre filiation naturelle, si nous remontons à sa source et que nous la déclarions loyalement, il faut que nous voyions et que nous admettions que nous provenons d'une souche ruinée, Adam. Notre famille est déchue, nous sommes irréparablement ruinés. Nous ne pourrons jamais regagner notre position originale. Notre premier état et l'héritage qui s'y rattache sont perdus sans retour. Peut-être un homme tracera-t-il sa ligne généalogique à travers une race de nobles, de princes et de rois. Mais s'il doit franchement déclarer sa généalogie, il faut qu'il aille jusqu'à un chef tombé, ruiné, banni. Il faut aller à la source d'une chose pour savoir ce qu'elle est réellement. C'est ainsi que Dieu voit les choses et en juge. Il faut que nous pensions comme lui, si nous voulons penser droitement. Mais le chrétien est dans une position bien différente. Sa filiation est céleste. Son arbre généalogique a ses racines dans le sol de la nouvelle création. La mort ne peut jamais briser cette généalogie, car c'est la résurrection qui l'a formée. Il est de la plus haute importance que le lecteur soit tout à fait au clair sur ce point fondamental. Nous voyons dans ce premier chapitre des Nombres combien il était essentiel que chaque membre de l'Assemblée d'Israël puisse déclarer sa filiation. Nous pouvons difficilement nous représenter un Israélite qui, appelé à déclarer sa généalogie, se soit exprimé selon la manière évasive de plusieurs chrétiens de nos jours. Nous ne pouvons pas nous le figurer disant « Eh bien, je n'en suis pas bien sûr ». Quelquefois je nourris l'espoir d'être de la race d'Israël, mais d'autres fois je crains vivement de ne pas appartenir à la congrégation de l'Éternel. Nous pouvons être assurés que des idées et des doutes semblables étaient étrangers aux Israélites. chaque membre de la congrégation était appelé à déclarer sa généalogie avant de prendre sa place dans les rangs comme homme de guerre. Tout était déterminé, certain et parfaitement établi s'il devait y avoir une entrée réelle dans la marche et le combat au milieu du désert. Or, si un juif pouvait être certain de sa généalogie, pourquoi un chrétien ne pourrait-il pas être sûr de la sienne ? Lecteur, si vous faites partie de cette grande classe de personnes qui ne peuvent jamais arriver à la certitude de leur lignée céleste, de leur naissance spirituelle, réfléchissez, nous vous en supplions, et laissez-nous vous parler de ce point important. Il se peut que vous vous demandiez « Comment puis-je être sûr d'être réellement et vraiment un enfant de Dieu, un membre de Christ ?» Si tel est votre cas, nous désirons vivement vous aider, car le but spécial que nous nous sommes proposés en écrivant ces notes, c'est d'assister les âmes inquiètes en répondant à leurs questions selon que le Seigneur nous en rendra capables et en écartant de leur chemin les pierres d'achoppement. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Avant tout, signalons un trait caractéristique qui appartient à tous les enfants de Dieu sans exception. C'est un trait fort simple, mais très précieux. Si nous ne le possédons pas, en quelque mesure, c'est la preuve certaine que nous ne sommes pas de la race du ciel. Mais si nous le possédons, il est évident que nous sommes de cette race et que nous pouvons alors, sans aucune difficulté ou aucune réserve, déclarer notre généalogie. Quel est ce trait ? Quel est ce grand caractère de famille ? Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'indique. Il nous dit que la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Luc 7, verset 35, voire Matthieu 11, verset 19. Tous les enfants de la sagesse, depuis les jours d'Abel jusqu'à aujourd'hui, ont été distingués par ce grand trait de famille. Ils ont toujours fait voir en quelque mesure ce trait moral. Ils ont justifié Dieu. Que le lecteur pèse cette déclaration. Il se peut qu'il trouve difficile à comprendre ce que veut dire « justifier Dieu ». Mais un passage ou deux de l'Écriture l'éclaireront parfaitement, nous l'espérons. Nous lisons en Luc 7 « Tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu, n'ayant pas été baptisés par lui. » Versets 29 et 30. Nous avons ici les deux générations placées pour ainsi dire face à face. Les publicains qui justifiaient Dieu et se condamnaient eux-mêmes, et les pharisiens qui se justifiaient eux-mêmes et jugeaient Dieu. Les premiers se soumettaient au baptême de Jean, le baptême de la repentance. Les seconds refusaient ce baptême, refusaient de se repentir, de s'humilier et de se juger eux-mêmes. Nous avons donc ici les deux grandes classes entre lesquelles toute la famille humaine a été divisée, dès les jours d'Abel et de Caïn jusqu'au jour actuel. Nous avons aussi une pierre de touche fort simple pour éprouver notre généalogie. Avons-nous pris cette place dans laquelle nous nous condamnons nous-mêmes ? Nous sommes-nous prosternés devant Dieu dans une vraie repentance ? C'est cela qui justifie Dieu. Les deux faits vont ensemble, ils ne sont en vérité qu'une seule et même chose. L'homme qui se condamne lui-même justifie Dieu, et celui qui justifie Dieu se condamne lui-même. D'un autre côté, l'homme qui se justifie lui-même juge Dieu. De plus, dès qu'on se place sur le terrain de la repentance et du jugement de soi-même, Dieu prend la place de celui qui justifie. Dieu justifie toujours ceux qui se condamnent eux-mêmes. Tous ses enfants le justifient, et il justifie tous ses enfants. Dès l'instant où David a dit « J'ai péché contre l'Éternel », il lui a été répondu « Aussi, l'Éternel a fait passer ton péché. » De Samuel 12, verset 13. Le pardon de Dieu suit immédiatement la confession de l'homme. Il résulte de là que rien ne peut être plus insensé de la part de quelqu'un que de se justifier lui-même. Ce qu'il y a de plus sage, c'est de se condamner soi-même. Et c'est ce que font tous les enfants de la sagesse. Rien ne signale mieux le caractère des vrais membres de la famille de la sagesse que l'habitude et l'esprit du jugement de soi-même. Rien ne fait mieux connaître tous ceux qui n'appartiennent pas à cette famille qu'un esprit de propre justification. L'homme naturel blâmera tout et chacun, excepté lui-même. Mais quand la grâce est à l'œuvre, elle produit une disposition à juger le moi et à prendre une place humble. Là est le vrai secret de la bénédiction et de la paix. Tous les enfants de Dieu se sont tenus sur ce terrain béni, ont montré ce beau trait moral et ont atteint cet important résultat. Nous ne pouvons pas trouver une seule exception sur ce point dans toute l'histoire de l'heureuse famille de la sagesse. Et nous pouvons en toute sûreté dire que si le lecteur a été, en vérité et en fidélité, conduit à se reconnaître perdu, à se condamner lui-même, à prendre la place de la vraie repentance, il est alors en réalité un des enfants de la sagesse, et il peut désormais, avec hardiesse et avec assurance, déclarer sa filiation. Connaître sa filiation. Nous voudrions dès le début insister là-dessus. Il est impossible pour qui que ce soit de reconnaître la véritable bannière et de s'y rallier si l'on ne peut déclarer sa filiation. En d'autres termes, il est impossible de prendre une position juste dans le désert aussi longtemps qu'il y a quelque incertitude au sujet de cette grande question. Comment un Israélite d'autrefois aurait-il pu prendre sa place dans l'Assemblée ? Comment aurait-il pu se tenir à sa place dans les rangs de l'armée de l'Éternel s'il n'avait pu déclarer distinctement sa généalogie ? Cela aurait été impossible. Il en est justement ainsi du chrétien de nos jours. Il ne peut pas être question de progrès dans la vie du désert et de succès dans le combat spirituel s'il reste en lui de l'incertitude sur sa généalogie spirituelle. Il faut qu'il puisse dire « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes de Dieu. » 1 Jean 3, verset 14 et 5, verset 19. Lecteur, pouvez-vous déclarer votre filiation ? Est-ce là pour vous une chose parfaitement établie ? Lorsque vous êtes seul à seul avec Dieu, est-ce une question entièrement réglée entre vous et lui ? Ne passez pas légèrement sur ce sujet. Ne vous fondez pas sur une simple appartenance à une église. Ne dites pas « Je prends la scène, j'admets telle et telle doctrine, je mène une vie morale, je n'ai fait de tort à personne, je lis la Bible et je dis mes prières, et de plus je soutiens libéralement les œuvres philanthropiques et religieuses. » Tout cela pourrait être parfaitement vrai sans que vous ayez la vie divine. Il faut que ce soit l'Esprit qui rende témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Romains 8, verset 16. Ce témoignage accompagne toujours la foi simple dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. 1 Jean 5, verset 10. Il ne s'agit pas de vous fonder sur des formes, sur des sentiments et sur des expériences. Rien de tout cela. Ce qu'il faut, c'est une foi enfantine en Christ, c'est croire Dieu sur parole. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Être prêt pour le combat. Voilà la véritable manière de déclarer votre filiation. Et soyez-en sûr, il faut que vous puissiez la déclarer avant d'aller à la guerre. Nous ne voulons pas dire que vous ne puissiez être sauvés sans cela. Nous croyons qu'il y a des centaines de vrais chrétiens qui ne peuvent pas déclarer leur filiation. Mais ils ne sont pas en état d'aller à la guerre. Ils ne peuvent être de vaillants soldats de Christ. Ils ne savent pas même ce qu'est une véritable lutte. Au contraire, les personnes de cette catégorie prennent souvent leurs doutes et leurs craintes, leurs moments sombres et tristes, pour le vrai combat du chrétien. C'est une erreur des plus graves. Selon le Nouveau Testament, la vraie lutte du chrétien se soutient dans une région où les craintes et les doutes sont inconnus. Nos épuisantes luttes sous la loi, notre incrédulité coupable, notre refus de nous soumettre à la justice de Dieu, nos raisonnements et nos hésitations ne peuvent en aucune façon être regardés comme le combat chrétien. Toutes ces choses doivent être considérées comme une lutte contre Dieu, tandis que la lutte du chrétien a lieu contre Satan. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Une telle lutte ne peut pas être soutenue par ceux qui doutent s'ils sont chrétiens ou non. Trois sortes de combats. Pendant que nous occupons du sujet important de la lutte du chrétien, il peut être bon de porter notre attention sur trois portions du Nouveau Testament où le combat nous est présenté sous trois aspects différents. Romains 7, versets 7 à 24, Galates 5, verset 17, Éphésiens 6, verset 10 à 17. Premièrement, en Romains 7, versets 7 à 24, nous avons la lutte d'une âme vivifiée, mais non affranchie, d'une âme régénérée, mais sous la loi. La preuve que nous avons là une âme vivifiée, c'est les déclarations « Car ce que je fais, je ne le reconnais pas. Le vouloir est avec moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Une âme non régénérée ne pourrait parler ainsi. La désapprobation du mal, la volonté de faire le bien, le plaisir intérieur que l'on prend à la loi de Dieu, toutes ces choses sont les marques distinctives de la vie nouvelle, les fruits précieux de la régénération. Mais d'un autre côté, la preuve que nous avons là une âme qui n'est pas pleinement affranchie et qui n'a pas la joie d'une délivrance connue, nous la trouvons dans les paroles « Je suis charnel vendu au péché. Ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Misérable homme que je suis, qui me délivrera ?» Or, nous savons qu'un chrétien n'est pas vendu au péché, mais racheté de sa puissance. Il n'est pas un misérable homme, soupirant après la délivrance, mais un homme heureux qui a la conviction de sa délivrance. Il n'est pas un faible esclave, incapable de faire le bien et toujours entraîné à faire le mal. Il est un homme libre, doué de puissance par le Saint-Esprit, et pouvant dire « Je puis toute chose en celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. Nous ne pouvons entrer ici dans une exposition complète de ce passage important, nous nous bornons à présenter une ou deux pensées qui peuvent aider le lecteur à en saisir la portée. Ce chapitre décrit les exercices d'une âme vraiment régénérée, mais qui n'est pas encore rendue libre. Elle le sera par la connaissance de son union avec un Christ ressuscité et par la puissance du Saint-Esprit. Des centaines de chrétiens sont actuellement dans la position que nous présente ce chapitre 7, mais leur place véritable est dans le chapitre 8. Ils sont sous la loi quant à leur expérience. Ils ne se voient pas scellés du Saint-Esprit. Ils ne jouissent pas encore d'une pleine victoire dans un Christ ressuscité et glorifié. Mais un chrétien n'est-il pas accepté dans le bien-aimé? N'est-il pas scellé du Saint-Esprit de la promesse? N'est-il pas uni à Christ? C'est son privilège de marcher dans la sainte liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant. Deuxièmement, jetons maintenant un coup d'œil sur la lutte en Galates 5, verset 17. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Ce passage ne présente pas une continuelle défaite, mais le secret d'une perpétuelle victoire. Au verset 16, nous lisons « Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Cela rend tout très clair. La présence du Saint-Esprit nous assure la puissance. Nous sommes convaincus que Dieu est plus fort que la chair, et par conséquent, lorsqu'il combat avec nous, le triomphe est certain. Qu'on remarque soigneusement que Galates 5, verset 17, ne parle pas du combat entre les deux natures, la vieille et la nouvelle, mais entre le Saint-Esprit et la chair. C'est pourquoi il est ajouté « afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez ». Si le Saint-Esprit n'habitait pas en nous, nous serions sûrs d'accomplir la convoitise de la chair. Mais comme il est en nous pour livrer le combat, nous ne sommes plus obligés de faire le mal, et nous sommes rendus capables de faire le bien. Ici apparaît précisément la différence entre Romains 7, versets 14 et 15 et Galates 5, verset 17. Dans le premier passage, nous avons la nouvelle nature, mais sans la puissance de l'Esprit habitant dans le croyant. Dans le second, nous avons non seulement la nouvelle nature, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que la nouvelle nature dans le croyant est dans un état de dépendance. Elle est dépendante de l'Esprit pour la puissance et dépendante de la parole pour la direction. Mais évidemment, il faut que la puissance se manifeste là où se trouve le Saint-Esprit. il peut être attristé et entravé. Mais Galates 5, verset 16 enseigne clairement que si nous marchons par l'esprit, nous obtenons sur la chair une victoire sûre et constante. Troisièmement, et maintenant un mot sur Éphésiens 6, verset 10 à 17. Ici, nous avons la lutte entre le chrétien et les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Le chrétien est du ciel et devrait toujours avoir une marche et un caractère céleste. Le diable cherche à nous en empêcher de toutes les manières, et c'est ce qui produit la lutte. Mais nous avons l'armure complète de Dieu, par laquelle nous pouvons résister à notre puissant ennemi spirituel. Nous ne pouvons nous arrêter plus longtemps sur ces sujets. Soulignons l'importance qu'il y a d'être au clair quant à la vraie nature du combat chrétien et au terrain où il se livre. Si nous allons à la guerre sans savoir ce que c'est, et n'étant pas sûrs de notre filiation, nous ne ferons pas beaucoup de chemin contre l'ennemi. L'ordre du camp d'Israël. Mais, comme nous l'avons déjà fait remarquer, il y avait une autre chose tout aussi nécessaire pour l'homme de guerre que la déclaration exacte de sa généalogie. C'était la reconnaissance distincte de sa bannière. Les deux choses étaient essentielles pour la marche et le combat dans le désert. D'ailleurs, elles étaient inséparables. Si un homme ne connaissait pas sa filiation, il ne pouvait pas reconnaître sa bannière. Chacun devait connaître son poste et le garder, connaître sa bannière et s'y rallier. Ainsi, ils avançaient ensemble, il y avait du progrès et le combat était soutenu. Le benjaminite avait son poste, l'éphraïmite le sien. Il en était ainsi pour toutes les tribus dans tout le camp d'Israël. Chacun avait sa généalogie, sa bannière et son poste. Rien ne dépendait des pensées de l'individu. Tout était de Dieu. Il n'y avait pas lieu de comparer un Israélite à un autre. Il n'y avait rien qui puisse provoquer de la jalousie entre eux. Chacun avait sa place à remplir et son œuvre à faire, et il y avait assez de travail et de place pour tous. Les fils d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de leur maison de père. Et les fils d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ainsi ils campèrent selon leur bannière, et ainsi ils partirent, chacun selon leur famille, selon leur maison de père. Chapitre 2, versets 2 et 34. Ainsi, dans le camp de jadis, aussi bien que dans l'Église de maintenant, nous apprenons que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Les quatre camps, composés chacun de trois tribus, étaient disposés avec exactitude. Ils formaient un carré parfait, dont chaque côté portait la bannière qui lui était propre. Les fils d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur maison de père. Ils camperont autour de la tente d'assignation, à distance, vis-à-vis. Chapitre 2, verset 2. Une question au lecteur. Cher lecteur, êtes-vous au clair et fixé quant à votre filiation spirituelle? Êtes-vous bien certain que vous êtes du côté du Seigneur? Ne laissez pas, nous vous en supplions, cette grande question sans l'avoir résolue. C'est la première condition pour être soldat de Dieu. Il est inutile de penser à entrer dans l'armée de Dieu aussi longtemps que vous n'êtes pas fixé sur ce point. Nous ne disons pas qu'un homme ne puisse pas être sauvé sans cela, mais il ne peut pas prendre son rang comme homme de guerre. Il ne peut pas combattre contre le monde, la chair et le diable aussi longtemps qu'il est rempli de doutes et de craintes sur la question de savoir s'il appartient à la vraie famille spirituelle. Pour qu'il y ait quelques progrès, pour qu'il y ait l'esprit de décision si indispensable à un guerrier chrétien, il faut qu'on puisse dire « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes de Dieu. » 1 Jean 3, verset 14 et 5, verset 19. C'est là le langage convenable à un guerrier. Aucun homme de cette puissante armée, qui se rassemblait autour de la tente d'assignation, n'aurait compris que l'on puisse avoir l'ombre d'un doute sur sa généalogie propre. Chacun de ces 600 000 hommes savait bien d'où il provenait, et par conséquent, il devait prendre sa place. Ainsi en est-il justement de l'armée de Dieu de nos jours. Il est nécessaire que chaque membre de cette armée possède la plus entière certitude quant à sa relation, autrement il ne pourra pas tenir dans la bataille. Voyons ensuite la bannière. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une doctrine? Non. Est-ce un système théologique? Non. Est-ce un règlement ecclésiastique? Non. Est-ce un système d'ordonnances, de rites et de cérémonies? Rien de cela. Les soldats de Dieu ne combattent sous aucune bannière de cette espèce. Quel est leur étendard? C'est Christ. C'est le seul étendard de Dieu et le seul étendard de cette troupe guerrière qui campe dans le désert du monde pour soutenir la lutte contre les armées du mal et pour livrer les batailles du Seigneur. Christ est l'étendard pour toute chose. Si nous en avions un autre, nous serions incapables de soutenir la lutte spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Nous n'avons pas, comme chrétiens, à nous disputer pour un système de théologie ou d'organisation ecclésiastique. Notre théologie, c'est la Bible. Notre organisation ecclésiastique, c'est le seul corps formé par la présence du Saint-Esprit et uni à la tête vivante et exaltée dans les cieux. Lutter pour autre chose, c'est tout à fait au-dessous des attributs d'un guerrier chrétien. Il y a, hélas, beaucoup de personnes qui, tout en professant appartenir à l'Église de Dieu, oublient leur vraie bannière et combattent sous un autre drapeau. Cela fausse le témoignage et arrête les progrès. Si nous voulons tenir ferme au jour de la bataille, il faut que nous ne connaissions d'autre étendard que Christ et sa parole, la parole vivante et la parole écrite. C'est en cela que consiste notre sécurité en face de tous nos ennemis spirituels. Plus nous nous tiendrons étroitement collés à Christ et à lui seul, plus nous serons forts et en sûreté. Nous tenir près de lui, serrés contre lui, voilà notre grande sauvegarde morale. Les fils d'Israël camperont chacun dans son camp et chacun près de sa bannière, selon leurs armées. Chapitre 1, verset 52. Oh, qu'il en soit ainsi de toute l'Église de Dieu, que l'on puisse tout mettre de côté pour Christ, qu'il suffise à nos cœurs. Comme nous faisons remonter notre généalogie jusqu'à lui, que son nom soit écrit sur l'étendard autour duquel nous nous rassemblons. Qu'il n'y ait rien d'autre d'inscrit sur notre bannière, si ce n'est le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom, et qui devra être encore à jamais exalté dans le vaste univers de Dieu.